J'espère que non, parce que sinon c'est la catastrophe. Il y a quoi, 30 centimètres?
La ville n'a pas eu besoin de reloger les habitants de ces 5 maisons inondées. Les familles s'en sont chargées. Passé la peur de cette nuit, ce midi, les habitants se posent des questions pour savoir comment cela va se passer avec les assurances et si leur inondation sera reconnue catastrophe naturelle.
Reportage de Jean-François Fernandez. De nouvelles pluies sont attendues dans la journée. L'Île-de-France et le département d'Eure-et-Loire sont en vigilance orange également, mais du fait de la neige.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros dans l'Hérault aujourd'hui à Rougen à 18h30 et demain dans l'Aude à Pépieux à 18h. Les sélections se font sur place à la même heure.
France Inter et France Télévisions, partenaires de l'exposition Basquiat jusqu'au 30 janvier 2011 au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est une vaste rétrospective, la première de cette envergure présentée en France à l'artiste américain Jean-Michel Basquiat à l'occasion du 50e anniversaire de sa naissance. Retrouvez l'exposition Basquiat dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter.
La différence. 15h et presque 5 minutes sur France Inter et tout de suite on retrouve Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Ouais, salut Daniel. C'est pour te dire, voilà, ma voisine, Madame Durand, s'est réconciliée avec sa fille. Voilà. Bon, c'est tout. Voilà, c'était... Parce que, voilà. Salut.
Faut-il privatiser l'air? Le gouvernement socialiste espagnol vient de privatiser la gestion des aéroports pour améliorer la sécurité, la loterie nationale, patrimoine national, et de supprimer l'indécente allocation des nantis, des chômeurs en fin de droit. Tout cela pour assurer les marchés. Jadis, c'était Billancourt qu'il ne fallait pas désespérer. Une violente bataille interne oppose, au sein du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, zapatéristes et cordonniers. Comme il ne reste que peu de secteurs à marchandiser, faut-il privatiser l'air? Le confier à la société Aire Liquido, au consortium Rioja Valdepeñas, à Messi, à l'ERC, aux héritiers de la couronne, dont une telenovela People nous a appris qu'ils ont l'air de bien s'entendre, de s'éventer souvent, à la société des moulins à vent. Le débat entre éléphants socialistes déplace beaucoup d'air et prépare demain le retour d'une droite qui, elle, n'a pas l'air d'être néo-franquiste. Elle l'est. L'air de rien.
Bravo Ahmed et bravo à tous ses collègues. Vous êtes tous des princes. Vraiment des grands princes. Choukran à vous, vraiment, on pense à vous. Et vive aussi les vieux Marocains. Allez, bon courage, continuez. Bye bye.
Bonjour, j'ai écouté les arguments pitoyables de M. Xavier Bertrand, interrogé par M. Cohen ce matin, que je félicite pour cette capacité à mettre sur la table les vrais problèmes. M. Xavier Bertrand semblait stupéfait d'imaginer que des conflits d'intérêts puissent exister dans ce monde et encore plus être évoqués à l'antenne de France Inter. Ses propos agressifs et incisifs, dépourvus de clarté en réponse à des questions bien précises, ne font qu'alimenter les doutes des auditeurs dont je fais partie. Ses leçons de morale sont intolérables. M. Xavier Bertrand, probablement plus intelligent que le peuple, devrait tenter de nous expliquer pourquoi aujourd'hui un médicament met tout au plus 10 ans avant d'être commercialisé, alors qu'il en fallait près de 20 il y a 15 ans. Il nous dira probablement que l'industrie pharmaceutique est plus intelligente et plus rapide qu'avant. Demandez-vous pourquoi, auditeur réfléchi et éclairé, pour quelle raison ce médicament, le Mediator, est dénoncé depuis des années par la presse médicale indépendante. Dérivé des amphétamines, il peut provoquer une réelle dépendance ainsi que des troubles cardio-pulmonaires dont on parle actuellement. Par souci pour les concitoyens, M. Bertrand semble plus intéressé par le fait de comprendre pourquoi, par qui et dans quelles circonstances il a été prescrit, plutôt que de nous expliquer comment et dans quelles circonstances l'autorisation de mise sur le marché a été établie, comment la CPM a pu rembourser à 65% un médicament qui n'a pas fait preuve de son service médical rendu. Pour quelle raison cette molécule fabriquée par Servier, laboratoire français, a-t-elle été retirée du marché depuis des années dans la plupart des autres pays et pas le nôtre? La prochaine molécule sur la liste et le dextropropoxyphène, un antalgique dénoncé depuis des années par la presse indépendante, dont l'arrêt de commercialisation en France est reporté d'année en année, pour des raisons que vous comprendrez maintenant tous, même si vous n'avez pas le QI de M. Bertrand. Pour le bien-être de certains, mais pas celui des patients, même tableau, même remboursement à 65%, et nous, Français, sommes quasiment les seuls à le commercialiser. Les effets néfastes sur le système cardiaque sont connus. On s'intéressera aux victimes le lendemain de son retrait du marché en pointant du doigt les prescripteurs. Pitoyable, monsieur Bertrand.
J'hallucine, là. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je viens d'allumer, j'ai cru que je m'étais trompé de radio. Ben ouais, j'entends une pub pour le Crédit Agricole. Non mais c'est incroyable, où est-ce qu'on va là? Alors déjà, il y avait les assurances. Merde, les banques, faut arrêter les conneries les gars. On est sur France Inter, merde. Alors, enfin je suis un peu énervé quoi, hein, voilà.
Salut Daniel, c'est François. Bah écoute, là, je sors du métro Campo Formio, donc dans le 13e arrondissement à Paris, à côté du Monde Diplo, puisque je me rends à l'enregistrement de l'émission mensuelle avec le Monde Diplomatique. Mais aujourd'hui, ce mardi, le Monde Diplo, c'est pas le seul journal à la réputation internationale grandissante qui sort dans les kiosques, puisque Fakir arrive ce matin dans tous les kiosques, avec en une un dossier sur comment ils ont ruiné la France, comment en supprimant les impôts les plus justes, et encore la Sarkozy en ce moment, avec son souhait de supprimer l'impôt sur la fortune, comment ils suppriment les impôts les plus justes, comment ils prennent aux pauvres pour donner aux riches. Alors on a aussi un témoignage mystère de Pierre Souchon sur comment je suis revenu de l'enfer. On a un papier sur les informaticiens, un nouveau prolo du PC. On a notre programme, le programme fakirien, pour une victoire sociale. Enfin, on a Fakir Thème sa zone, avec comment on a pu bloquer la zone industrielle pendant un paquet de temps sur Amiens. Je devine, hein, avec un sommaire aussi riche. Je sais ce que tu penses, hein, mais pourquoi pas une heure? Pourquoi pas une heure chaque mois avec l'équipe de Fakir? Pourquoi pas un éclairage sur la situation géopolitique internationale? Mais tout ça vu depuis la Picardie. Alors bon, voilà. On va rentrer au Monde Diplo. A tout de suite, Daniel. Alors toi, tu as la chance d'avoir ce magnifique Fakir gratuitement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, il est dans les kiosques à partir de ce matin.
Voilà, ça s'appelle de la publicité clandestine. Voilà, ça porte annonce qu'on vient d'entendre, la publicité clandestine. François Ruffin détourne le répondeur de la Basse-UJICHI pour faire sa publicité. Vous avez compris que nous étions au Monde Diplomatique et que demain, pas aujourd'hui, mais demain, nous serons autour du numéro du mois de décembre avec l'équipe du Diplo dans la Basse-UJICHI. Aujourd'hui, ah, ça va vous étonner aujourd'hui. Je pense que ça va vous étonner. Les combats de coqs. Savez-vous que cette pratique continue dans certaines régions de France, dans le nord de la France? Ça continue, c'est assez discret. On n'en parle pas beaucoup. Ça fait l'objet de controverses évidemment passionnées entre ceux qui défendent la tradition, la passion, le respect de l'animal, la culture populaire, d'un côté, et de l'autre côté, ceux qui dénoncent la barbarie, la cruauté, les paris truqués, l'imbécilité, la bestialité des coqueleux, de ceux qu'on appelle des coqueleux. Alors nous, on ne va pas rentrer du tout dans cette controverse, non pas par la lâcheté médiatique habituelle, c'est que autre chose se passe et se joue dans cette histoire, dans cette tradition des combats de coqs, et que c'est un monde qui est inconnu à beaucoup d'entre nous et d'entre vous. On sait que ça, c'est des choses qui se font dans certains pays du monde, quand on va faire un tour aux Antilles françaises, mais dans le nord de la France, eh bien ça continue. C'est un reportage de Julien Brigaud. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Il a beaucoup neigé sur les Côtes d'Armor mercredi dernier. C'était très beau, mais nous avons dû annuler le repère prévu ce jour-là. Donc le repère de Tréguier se tiendra le mercredi 8 décembre au bar des Plaisanciers à partir de 18h30. Le thème est toujours autour de la solidarité. À mercredi, Tréguier dans les Côtes d'Armor.
2 minutes pour moi sur ces ondes, ce sont 2 minutes précieuses pour un procès si attendu par les familles. Ils étaient 4, Jean-Yves Claudet, Alphonse Chanfraud, Georges Klein, Étienne Lès, le 4 assassinés, torturés, disparus, œuvre de tortionnaires et de bouchers qui ont sévi dans leur pays là-bas au Chili. 4 fauchés dans leur jeunesse sous les mains des bourreaux et de l'infâme Pinochet. Aujourd'hui, va s'ouvrir en France un procès historique pour ces victimes et leurs familles, duquel, dans le pays des droits de l'homme, on attend bien sûr une condamnation ou un mandat d'arrêt international. Peut-on imaginer une autre issue pour des bourreaux? Moi, petite fille et fille de réfugiés politiques, j'ai eu Franco. Ils ont eu Pinochet, deux monstres à tête humaine. Alors ce procès retentit pour moi comme un symbole, celui des tortionnaires, qui n'auront plus d'autre vision de futur qu'un mandat des accusés et une condamnation. Et pour ces familles et ces victimes, comme le dit leur chanson « Venceremos », c'est la plus belle fin que je leur souhaite.
Bonjour Christine, une salariée de Sanofi Aventis. Donc une salariée en colère qui a appris par France Inter hier qu'il y avait 575 licenciements, en clair 900 postes supprimés. Et le comble du mépris des salariés, c'est l'appel de nos petits chefs ce matin pour nous dire que si on n'était pas bien, si on n'était pas content, on pouvait les appeler. Mais surtout qu'il fallait continuer à travailler pour le business, donc pour nos actionnaires qui nous licencient au mépris de toutes les lois. Salut.
Bonjour, un repère de là-bas est né en Ille-et-Vilaine. Il se réunira mardi prochain, 7 décembre, à partir de 19h30, au Café Chantant le Trousse-Chemise, à Langan. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Rennes. Le thème sera la fabrication des jouets. Est-ce un monde enchanté? Comme invité, nous aurons Fanny Gallois de l'association Peuple Solidaire et Bénédicte Briand de l'association Au Bois des Ludes. Salut!
Salut, c'est Daniel Mermès et la messe, et j'y suis avec Julien Brigot, le chant du sang du coq.
Flight number 2, arriving from...
Ici, il y en a partout. Ma frime en parle au bout d'en dehors, mais on n'ira pas. Voilà. Oh, ici, ça vient.
Tous les coqs, tu vois ça. Côte.
Ils sont énervés, hein.
C'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils y vont maintenant. Ils attrapent l'âge et... Tu vois, gars, ça tourne.
On est en bas des Flandres, on est dans la volière de Jean-Claude, et puis Jean-Claude et Benjamin, son fils de 10 ans, va nous présenter ses bêtes de combat.
Attends, il barbote comme ça, allez. Il joue avec son grain.
Ça veut dire qu'il a envie de combattre.
Il a envie de combattre. Il est plus que prêt.
Il tourne comme un lion en cage, il a envie de nous sauter dessus, celui-là.
Allez, pas trop près, hein. Alors recule un peu, parce que des fois, il y en a son méchant qui tape dans le grillage, je vois. Ça, c'est un poulet. Ça, là-bas, c'est un de 18 mois. Oh, il est quasiment prêt à y aller.
À quoi vous voyez qu'il est prêt à y aller, celui-là?
Lui?
Ouais.
Bah, déjà, sa tête, elle vient bien rouge, et puis là, dès que ça va commencer à gonfler, là, son œil, c'est parce qu'il est en bonne condition. Il est prêt. Ça, c'est un qui a battu la semaine dernière, ça. Là aussi, un aussi, quoi. Un vieux aussi, un de l'année dernière. Lui, il demande de retourner, lui.
Il a envie de se battre?
Ah ouais, il n'y a pas longtemps qu'il a été, et il est déjà pour y regaler. Regarde, hein. Les deux.
Des petits coups comme ça, ouais.
Des fois, c'est pas que des petits coups comme ça, c'est directement là avec les pattes. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Ça, ici, ils vont jouer là dans 8 jours, 15 jours, ça y est.
D'accord.
Là, ils sont partis. Hein.
Il y a quelque chose de la tension, de la pression, de la fascination qu'on trouve autour des rings de boxe aux États-Unis, en Asie, en Thaïlande par exemple. Cette étrange fascination devant les combats des hommes qui s'affrontent dans certaines règles. On dit que ces combats de boxe, de lutte, ont été des moyens d'éviter de se détruire en ritualisant les combats, l'agressivité, les comptes à régler. On évitait, on respectait le corps de l'autre. l'humanité de l'autre. En somme, la boxe serait, la lutte serait une preuve de notre civilisation. Pardon. Pas facile de convaincre certains de ce que je suis en train de dire. Encore moins facile concernant le combat de coq. Et pourtant, pour beaucoup, c'est le même truchement, c'est le même déplacement, c'est une sorte de métaphore de l'agressivité qui passe ainsi à travers l'animal portant cette agressivité à travers lui. Je suis certain, je l'ai dit en commençant, de ne pas être convaincant. Et je ne suis pas convaincu non plus. On a voulu, avec Julien Prigaud, simplement faire découvrir un monde assez peu connu, celui des coqueleux, de ceux qui pratiquent, comment appeler ça, ces combats, on va dire, ces combats, ceux qui battent le coq. Battent le coq, c'est comme ça qu'on dit dans les Flandres, où nous nous rendons. Il existe une fédération des coqueleux de la région Nord-Pas-de-Calais, qui a été créée en 1927. Longtemps, les combats de coq ont été interdits en France et ont été réhabilités dans les années 60, notamment avec une phrase surprenante du général de Gaulle disant « Puisqu'on tue les coqs, il faut bien qu'ils meurent ». Est-ce que ça a suffi? Est-ce qu'on accepte que, de façon discrète, de façon sans grand tapage, cette tradition se poursuive? À la condition qu'il s'agisse d'une tradition ininterrompue. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qu'on va rencontrer là sont coqueleux, de père en fils depuis fort longtemps. C'est une passion française, mais pas seulement, je le disais aussi en commençant. On y joue dans bien des parties du monde. Vous connaissez peut-être ces gallodromes en Amérique latine, notamment aux Antilles françaises, en Polynésie également, en Asie, un peu partout. On trouve ces sortes de petits cirques au milieu desquels on voit ces deux coqs qui s'affrontent avec ces hommes qui sont autour, soit silencieux, soit hors d'eux-mêmes, qui hurlent, qui crient, qui jouent. Et parfois, le combat a lieu en un énième de seconde, le sang gicle. C'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de terrifiant à voir. Alors bien sûr, émotion... passion, interrogation sur ce qui nous passionne, qui nous fascine et qui relève parfois aussi du dégoût intéressé. Quelque chose de notre très profonde nature se donne ici à voir et à entendre d'ici à 16 heures dans la bassie. J'y suis, le chant du sang du coq.
Je ne perdrai jamais le nord. Ma bonne étoile est une barbelle. Mon amour est à mon tonneau. Rempli d'espoir. Je me pose un temps de vie. Je me fais des amis tout y quanti. Ma belle province me chante encore. Si tout refrain, mais c'est ici que j'ai envie de danser.
Dans le Nord, on parle pas de l'alcool qu'on distille, ni du tabac qu'on gaspille. On parle de poésie et de filles, des anciens, de la mine et du textile. Et c'est dans les rues, entre beffroi et terril, que l'on peut entendre le chant des gens qui défilent. Dans la foule, l'accordéon brille, ça pousse, ça swing jusqu'au bout de la nuit. Puis,
je me pose un pont de vie. Je me fais des amis et tout est quanti. Ma belle province me chante encore. Si tu refrains, mais si tu sais que j'ai envie de danser, yeah.
Et ça rentre, et ça sort, et ça sert aussi à ça le nom.
La ganja, yeah, yeah, yeah.
Et ça sert aussi à ça le nom. Et ça rentre, et ça sort, et ça sert aussi à ça le nom.
Bango, chagaya panga la bango.
Et ça rentre, et ça sort, et ça sert aussi à ça le nord. Et ça sert aussi à ça le nord.
Comment c'est les coqs qui se préparent? C'est incroyable ça, une vitesse. Là pareil. Et pourtant c'est encore des jeunes, on le voit par ses pokés, ses ergots.
Qu'est-ce que c'est les ergots, Jean-Claude?
Les ergots, ben, c'est ce qu'on trouve à chaque patte, quoi. Tu vois, en bas, c'est l'emplacement où qu'on doit mettre leurs armes.
Alors les ergots, soit on les calfeutre comme ça, ou soit on leur met des petites lames, c'est ça pour...
C'est des aiguilles, quand même.
Des aiguilles.
Ben, pour leur donner tous la même chance. Parce qu'il y en a qui ont des gros ergots, ils sont ronds. Mais par contre, il y en a qui ont des ergots très très fins et très pointus.
Naturellement.
Donc, celui qui a le plus fin, il a plus de chance que l'autre. Donc, on leur coupe tous leurs ergots à la même hauteur et on leur met les éperons tous pareil. Comme ça, ils ont tous...
Arme égale.
Arme égale.
Lui, il est méchant, lui.
Ah, lui, c'est...
Ah, il a envie de me sauter dessus.
Ah, lui, ouais. Vous avez vu, tout de suite, hein, il est... ouais. Je vais vous montrer vraiment que c'est un méchant, mais méfiez-vous, il a tout. C'est pour peu que je l'ouvre. Allez, viens, là-bas. Ça sort, hein. Regardez cette largeur de dos que je tire.
Ah ouais, c'est au moins... C'est comme un...
Ça, c'est un lourd. Ça, c'est un lourd. Ça, c'est un coq qui peut faire 5,5 kg.
5,5 kg. Il a déjà combattu, lui.
Ah, lui, il a déjà combattu. Lui a combattu déjà deux fois.
Deux fois. Il a gagné.
Deux fois nul.
Deux fois nul, c'est-à-dire.
Nul. Le combat nul. Ça veut dire qu'ils sont les deux, si bien lui que l'autre, ils sont nuls. Match nul.
On lui a enlevé sa crête.
Couper la crête, ça c'est à l'âge quand on commence à les rentrer en volière. Ça c'est pour qu'au parc, il ne se fait pas prendre par la tête, par la crête. Et en même temps, c'est parce qu'il y a aussi des variétés, que la crête est tellement grande qu'elle balle sur les yeux et ils viennent aveugles. Voilà. Ouais, ah.
Le beau-frère qui vient nous chercher.
Ouais, ça y est, encore deux minutes.
À peine,
tu vois. Ah ouais, c'est l'heure.
Bah oui, il y a une affiche et c'est marqué tous les numéros quand on joue. Par exemple, premier, et ben on doit armer tout de suite. Dès qu'on arrivait là-bas, on doit armer tout de suite pour après pouvoir jouer. Si on n'est pas encore là, et ben tant pis, ils vont jouer à un autre concurrent, ils vont jouer là-dedans par exemple.
T'as combien de coqs, Benjamin ?
Hein ? Bah en fait, presque tous les coqs, c'est à moi.
D'accord.
En même temps, c'est en famille, c'est tous à nous, les coqs.
Donc il y a le père, le fils et le petit-fils.
Trois générations de coqs.
Trois générations, plus le beau-frère. On y va, fille.
Vas-y. J'ai grand-mère, j'ai
rien de bien.
Bonjour. Ça va ?
Ça va ?
Ça va bien. J'ai pris un abonnement au combat de coq.
Ah ben là, c'est pas... Je sais pas pourquoi, Lucie.
Il y en a qui voulaient faire annuler complètement les combats de coq. Parce qu'ils disaient que c'était inhumain de faire battre des bêtes l'une contre l'autre. Ils trouvent ça inadmissible. Il y a toujours un peu de polémique autour de ça. Mais beaucoup plus depuis que Brigitte Bardot l'avait mis son nez dedans, on va dire. C'est devenu strict un peu. Pour ça que vous n'avez pas le droit de faire de photos. Il n'y a personne qui vous accordera de faire de photos. Et comme il y a tellement de magouilles, on va dire un peu, quelquefois, sont sur leur garde. Les règles sont les règles, donc. Vous risquez de rester sur le trottoir.
Ah oui, pas facile d'entrer dans ce cercle des coqueleux. On vient de le faire comprendre. Il y a une tendance très forte à faire supprimer ces pratiques, ces combats. Il y a un nombre de pays dans le monde qui ont supprimé et interdit, bel et bien interdit, ces combats. Ce n'est pas le cas de la France dans certains endroits, dont celui où nous sommes, à la condition qu'il y ait une pratique ininterrompue, on vient de le voir, de père en fils. Mais la passion pour ces combats continue.
Je m'appelle Marie-Thérèse, je suis la fille de Raymond. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous qui êtes journaliste, est-ce qu'il serait possible de faire des recherches pour justement retrouver la fameuse affiche quand il y a eu le galop de Rome à Watt ? Ça nous permettrait, grâce à ça, d'en refaire un à Watt.
C'est-à-dire, si on retrouve la preuve qu'il y a déjà eu des combats de coq,
voilà, on peut en refaire. Mais il faut une preuve, rien qu'une affiche de ce temps-là, qu'il y a eu un galodrome, qu'il y a eu un concours de coq, ou un journal.
On va lancer un appel. S'il y a des gens qui ont des affiches des combats de coq de Watt, qu'ils écrivent à France Inter.
Preuve qu'il y en a dans
voilà.
Et au moins 30, ouais, 35
ans. Entre 35 et 40 ans sûr. Hein. Moi, je dirais.
Pas 44.
Mais 30, 35 ans sûr. Parce que moi, je sais que j'étais jeune. Donc,
Il y a eu un reportage il y a 3 ans à la télévision sur les galodromes. Et donc, ça montrait justement que ceux qui font les combats de coqs, ils aiment quand même leurs animaux. C'est pas une question. Puis c'est une race comme ça. C'est, dès qu'on les met ensemble, ils se battent. Quoi.
Dès qu'ils sont blessés, ils les retirent. Hein. Donc, on ne les laisse pas massacrer. Même si c'est 5 ou 6 minutes, hein, c'est le temps légal. S'il y en a un blessé, le juge déclare bah voilà, c'est nul ou quoi, on n'attend pas les 5 ou 6 minutes, le coq est retiré. Hein. On les laisse pas aller jusque. Bon, quand c'est fatal, où il prend une piqûre tout de suite, là on peut pas faire autrement, bon, c'est tout. Mais c'est pas voulu au départ, c'est pas dans le but de faire tuer le coq. C'est de le faire jouer. Parce que c'est vrai que c'est une race faite pour ça. Faites pour ça. Et il y en a parfois, quand ils n'ont pas pu jouer, ils sont tellement de feu qu'ils n'ont pas pu jouer, ils meurent d'un coup de sang.
Donc, en fait, il y a des arbitres, il y a des règles.
Il y a une fédération déjà derrière ça. Une fédération qui envoie le journal régulièrement. Oui, le coq gaulois. Donc c'est vraiment pas du clandestin. Et après, le jour du concours, il y a des arbitres. Donc là aussi, on peut demander quand on n'a pas confiance ou qu'on croit qu'en face de nous, il y a un coq qui n'a pas le poids ou quoi voulu, on peut demander la balance par exemple, pour le faire peser, pour voir si justement on n'a pas déclaré un coq plus petit qu'alors il était moyen ou mi-lourd. Donc il y a vraiment des règles jusqu'au bout. C'est pas du n'importe quoi, quoi.
Là, je crois qu'il m'attend. Alors, j'y vais. Merci beaucoup. Salut le chien.
Au concours du coq, fallait un roc. Et comme je suis le coq du roc, j'en ai fait un roc, plus ou moins toc. Un roc que je vais finir en loc. Et par Saint-Enoch, Lucien Médoc, votez en bloc pour mon petit roc. Le roc du coq, c'est the buck.
On passe l'ancienne frontière avec des magasins de tabac, des stations essence. Encore des magasins de tabac, encore des stations essence, des magasins de chocolat, de Tiffany's, In Gang, pour bière, tabac et charbon.
Voilà, Abel.
Voilà. Un petit panneau jaune, Abel.
Là, nous sommes arrivés.
Raymond, quand vous battez les coqs, vous mettez toujours votre blouse bleue ?
Ah, toujours. Et à mon nom aussi. Elle est vieille, cette blouse.
Et pourquoi vous jouez en blouse, Raymond ?
C'est pour ne pas salir ce que j'ai en dessous. Quand le coq, il y avait plein de sang, et quelque chose ne salit pas mes effets.
D'accord. On dirait que vous sortez de l'atelier.
Il n'y a que la blouse.
Les autres aussi, coqueleux, ils portent une blouse. Des fois, même les enfants.
Il n'y en a plus beaucoup.
C'était quoi votre métier, Raymond, pendant votre vie active, entre guillemets ?
Travaux publics.
Travaux publics ?
Ouais. J'ai fait tous les métiers dedans.
C'était quoi alors ? C'était s'occuper de l'éclairage public, la construction des routes ?
J'ai fait poseur de bordure, terrassement, tout, tout ce qu'on veut, béton, tout. Ferrailleur, tout. Je faisais de tout, là.
On est à l'entrée du bar, il y a déjà énormément de monde, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, des gens qui sont attablés, c'est dimanche, les gens arrivent, décontractés. Voilà, on est au fond du bar et puis on rentre dans une pièce de 200 mètres carrés, il y a une centaine de personnes, beaucoup d'hommes en bleu de travail avec des bérets, en blouse grise, des hommes, quelques femmes sur la partie gauche, puis au centre il y a un ring avec des grilles, les deux coqs du premier combat sont en train de se donner des coups de bec, ça vole dans les plumages.
Sanctuary! 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 Sanctuary!
L'ambiance monte, la fièvre monte, on sent cette pression. Avec les parieurs qui sont en train de parier sur les coques, le coq de l'un ou de l'autre. Là, on est en train de parier 5 euros sur le coq de Thierry. Et ça renvoie à un peintre, Ernest Pignon. Un certain nombre d'entre vous se souviennent d'Ernest Pignon, un peintre des années 50, 60, ami Picasso, etc., qui a fait toute une série de peintures des coques. Évidemment, c'est un bonheur pour un peintre que ces mouvements de couleurs, cette vitesse extraordinaire des combats de coqs. Il a passé très longtemps, Ernest Pignon, dans ces galodromes. Et il dit il y avait quelquefois 40 combats dans l'après-midi. Cette fois, la réalité était véritablement une réalité de combat, de guerre, une nature frénétique. Et c'est assez ça, c'est cette nature frénétique, sauf qu'elle essaye d'être réglementée, codée, mise en rituel, et on peut le dire aussi en culte.
5 à Thierry !
On fait 5, et puis après on multiplie une fois, deux fois, 10 fois, tout dépend.
Et comment ça se décide, ça, sur le moment ?
Bah, c'est en fraction de seconde, quoi. On est habitué à parier, donc...
D'accord.
Merci.
Donc là, vous avez gagné un pari, par exemple ?
Ouais, les deux côtés.
Les deux côtés, d'accord.
Merci.
Oh là là, le combat est arrêté, là.
Vas-y, fini.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, ils ont gagné, déjà.
Ouais, donc ça a été une vitesse fulgurante.
C'est les coques de vitesse.
C'est les coques de vitesse.
Il y a des journées où on va gagner, il y a des journées où on va perdre. La semaine dernière, on a perdu, et aujourd'hui, on gagne un petit peu, quoi. Mais souvent, les paris, ça va et ça vient. On joue depuis au moins 200 ans, quoi. Ah ouais, le père de mon grand-père, il jouait à mon arrière.
Hey, ton briquet et truc.
Ça va et ça vient, les paris. On va pas venir riche ici. Hein.
On peut se faire combien en une journée comme ça ?
Ça dépend. Puis ça... Bon, ici, c'est pas encore les gros paris. Il y a des parcs qui avaient des plus gros paris que ça. Hein. Ici, ils montent le maximum de 300 euros. Quoi. Après, il y a des jours, tu vas rien trouver. Hein. Ça dépend des jours. Puis, il y a des jours, tu vas les perdre aussi. Non, mais c'est une chance sur deux. Hein. Et puis, c'est pas coté. C'est pas comme les cotes au tiercé. Hein. Tiercé, autre chose.
Normalement, c'est interdit, c'est ça, les paris et tout ça, c'est interdit.
Non, hein, non, c'est toléré. Hein. C'est connu, hein. C'est les gendarmes, tout ça, ils viennent. Hein, ouais. C'est connu. Ah, moi, je suis conducteur routier. Ouais. J'ai parti la semaine et ah, moi, j'ai ma copine qui soigne un peu mes coques. Hein. Et après, j'ai beaucoup d'installations automatiques. Donc, il n'y a pas tellement de boulot la semaine. Quoi.
Chauffeur routier la semaine et au galodrome le week-end.
Le week-end, ouais. Sac les glands. Ah, j'essaie de parier. 5-4 les glons. 5-4 les glons. 5-4 les glons. 5-4 les glons.
5-4 les glons. Excusez-moi, vous êtes l'arbitre ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu les règles importantes ?
Qu'est-ce que vous appelez les règles importantes ?
Les règles du combat.
Ça se joue en 6 minutes.
En 6 minutes ?
En 6 minutes, ouais. Il y a des héros, là, sur le tapis.
Ouais.
Ils n'ont pas le droit de dépasser les héros pour les mettre au parc. Et après, bon, les héros au milieu, ça c'est pour qu'ils dépassent pas trop. Et après, vous avez les minutes d'intervalle. On appelle ça les minutes d'intervalle. Quand on allume la minute couchée, vous voyez. Hein ? Et après, à la quatrième minute, c'est le dernier gagnant qui est le dernier droit qui gagne. Et s'ils sont tous les deux couchés à partir de la troisième minute, c'est nul.
C'est nul, d'accord.
Après, vous avez un coq qui sauve, un coq qui est accusé. S'il reprend, il se détourne, il perd.
Vous êtes installé une petite vitre récupérée dans un train là, pour vous protéger ?
C'est galop, mais... Bah oui, bien, on est plein de sang. Parce que... Des fois, pas toujours.
Pas toujours.
C'est rare qu'il y ait du sang, mais il y en a quand même, plus ou moins.
Hop ! Là, ça part fort. Hein.
Voilà, hop !
Oh ouais !
Hop !
Voilà ! Il a eu, là. Encore une, là.
Il lui a mis un bon coup, là.
Ah ouais, dans le dos. Encore une comme ça, et puis... Vas-y, fieu. Go !
Il tape encore fort, c'est comme...
Ah mais il va tomber à dos.
Non, Claude, il n'y a rien fait encore.
Tiens.
Claude et son collègue sont complètement surmenés, là, très très stressés, le visage rouge. C'est la première fois qu'il combat ce copain.
C'est la première fois, ouais. Il y en a remis une, non ?
Comment tu le sens, Claude ?
Pour l'instant, il n'y a rien de fait.
Il y a toujours une centaine de personnes dans le galodrome, là. Des gens qui, à la fois, sont accoudés autour du ring et peut-être une soixantaine de personnes qui sont tranquillement installées dans les gradins. Il y en a qui baillent, il y en a qui rigolent, il y en a qui regardent, il y en a qui sont nerveux, il y en a qui sont relax, il y en a qui sont comme un dimanche.
Si l'autre il tape, il tombe à dos. Nul.
Match nul ? Voilà, donc on sépare les coqs. Match nul. Claude remet le coq dans la boîte, prend sa trousse avec les armes.
Je suis né le 11 octobre 1923. Je passe 86 ans. Et pour y arriver, c'est pas donné. Il a fallu lutter. Et je suis un mineur de fond. La dernière manée que j'ai fait, on descendait à 1000 mètres de profond. Et si j'ai pas été tué, c'est à croire qu'il y a que ça en haut. Parce que vous savez, on a vu. Hein. On a eu des traces et autres.
Les combats de coq, ça vous a suivi tout au long de votre vie quand vous étiez mineur et c'est parti de là ?
Eh ben, je vais vous le dire, mon père c'est un flamand. Et dans les plantes, on battait beaucoup de coqs. Et mon père y a battu des coqs. Et c'est pour ça qu'on bat des coups. Et là-bas, ils n'étaient pas des coqs, ils étaient des coqs. Des coqs. Quand j'ai commencé à la mène, je restais à Ham. On faisait 9 km à pied pour aller travailler, hiver, été. On arrivait, on se déshabillait à la salle de bain, on se rhabillait en mineur. On allait prendre sa lampe. Il fallait attendre son tour pour descendre. Si t'es pas arrivé, terminé. L'heure chez l'heure, après l'heure de l'heure. La discipline pendant la guerre. Pendant l'occupation allemande, on travaillait 8h30 au fond. On a fait grève, ils nous ont foutu 9h. On a refait grève, ils nous ont foutu 9h15. On travaillait un dimanche sur deux, 15 jours consécutifs. D'hiver, on ne voyait jamais le jour. On était toujours dans le noir. Au fond, il fait noir, hein, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Si, poussière, gaz, eau, éboulement, peur, stress.
Est-ce que les patrons de la mine, ils avaient des coqs aussi ?
Tous les maîtres porions de la mine, ils battaient des coqs. Parce qu'il y avait des gens comme moi ou autres qui cultivaient. Et pour avoir des belles places, bien gagner peu, c'est apporter du grain aux employés. Pour rien. Malgré que je suis ouvrier, ça va, je comprends la vie de tous les jours. Hein. Je suis un gars qui suis débrouillé. Comme chez coq.
Dans un village noir de charbon, dans les cheminées et les corons, tout petit, il battait ses copains. Il était fier de ses deux poings, presque autant que son père le mineur, qui disait, ça fera un boxeur. Le jour de son premier combat, fallait un nom. L'on avait pas, comme la mode était à l'anglais, il s'appela Battling Joe. Battling Joe devint un boxeur redouté. Battling faisait de grosses recettes. Battling devint une grosse vedette. Battling Joe. Les dames disaient tout près du ring, il est délicieux ce Battling. Et elles admiraient son moral, sans penser que les coups ça fait mal. Battling Joe. Battling devint un grand champion jusqu'au triste soir où un nion lui embrouilla soudain les yeux. Le manager dit, c'est pas sérieux, tu deviens feignant, fais ton métier, boxe, ça rime pas avec pitié. La foule eut peut-être tort ce soir-là de siffler la fin du combat, malgré les lampes et leurs éclairs. Battling Joe. Et Joe ne voyait plus clair. Battling Joe, c'est un nom maintenant oublié, une triste silhouette qui penche, appuyée sur une canne blanche. Battling Joe, a tout perdu en un seul soir. Ses yeux sont titres et son espoir. Mais il sait comme consolation que son manager a d'autres champions. Battling Joe.
Surtout la tiraille du coq combattant là. Qu'est-ce que c'est tous ces petites.
Ça c'est des talons ça. En alu. Ça c'est des. En acier trempé. C'est les armes ça. Et ça c'est les étuis pour protéger les armes. Et ça c'est les.
C'est ça qu'on disait pour les mettre égaux.
Tu mets du coton sur sa patte, tu mets un petit bout d'alu là.
Talon.
Le petit talon en alu.
C'est le support pour porter l'arme.
D'accord. Petite lanière de cuir là, pour fermer le tout. Et puis la corde.
Voilà. Il n'y a rien de sorcier.
On met toujours un pic comme ça au bout des argots.
Toujours, tout le temps. Attention.
Ah, attention, il est méchant.
Oui, il vient d'attaquer le micro.
Il dort.
Ça repose.
Il se repose.
Ah oui, il dort. Enfin, il dort. C'est salé.
Le calme avant la tempête.
Voilà. Ah, mais il y a du été.
Ah oui, son adversaire, il joue. Ouais. Donc là, la bête, elle est armée. Elle est prête à. Hop, on le remet dans la petite boîte.
Ah, l'autre a perdu, là.
Oui, l'autre a perdu. L'autre, je m'en fais plus. Battre des coups, faire battre des coqs. Voilà, une pratique dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, dans le nord, qui persiste assez discrètement, sans faire grand tapage. On nous disait tout à l'heure que c'était toute une histoire pour arriver à faire des photos sur ce sujet. Les coqueleux sont très, très discrets, tiennent pas du tout à ce que les journaleux viennent mettre leur micro dans cette histoire. Ils nous ont quand même accepté. Ils ont accepté Julien Brigot parce qu'on avait pris la décision de vous montrer ce qui se passe là, aller voir, montrer aux uns comment vivent les autres, comment font les autres, même s'il s'agit bel et bien d'une prise de bec.
Pourquoi on a tenu droit dans le Nord-Pas-de-Calais ? C'est les Anglais qui ont ramené des coqs des Indes. Avant, c'était autorisé partout. Quand Brigitte Bardot, en 64, si je ne me trompe pas, a voulu faire interdire les combats de coqs, le général de Gaulle nous a permis de continuer à jouer par tradition dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a dit, quand moi je mange un poulet, il est mort, il a bien fallu le tuer. Voilà. Qu'il soit tué d'une façon ou d'une autre, pour moi c'est pareil.
Et vive le général de Gaulle.
Pour vous, les combats de coqs, c'est quand même autre chose que l'affrontement pur et dur.
Ah, tout à fait, ouais. Il n'y a pas que ça. Bon, il y a déjà l'amitié entre coqueleux. On est quand même des gens qui savent vivre. C'est aussi une manière de sauver les animaux. Parce que cette race-là, elle va s'éteindre si on n'est pas là, nous. C'est des coqs combattants. C'est-à-dire, c'est ce qui descend tout de suite après le coq sauvage. Je couvre mes œufs, j'élève mes poussins, je trie mes coqs, je mets mes coqs en volière et je viens les jouer. C'est pas une petite chose. À croire comme ça, on vient ici, vous croyez que le coq n'est pas venu tout seul. Hein.
Et vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites comme travail pour avoir cette passion à côté qui vous prend tant de...
Je suis à la retraite.
Vous êtes retraité de...
Non, je suis à la retraite, mais bon...
Lui, c'était un maçon.
Vous étiez maçon.
Ouais, voilà. Voilà. Je m'appelle René Facon. Et je ne retire rien de ce que j'ai dit. Je défendrai les coqs jusqu'à mon dernier souffle. Mais c'est les coqs que je défends. C'est pas les combats, hein. C'est les coqs. Il n'y a pas que le combat. Le combat, c'est l'aboutissement. Nous, les coqs, on les soigne tous les jours, bon sang.
Vous m'avez payé une pinche.
Merci. Une pinche.
La pinche, c'est la patate.
Une pinche.
En flamand, c'est un pinche. Moi, j'ai visité un abattage de poulets. Hein. Bon, leur tête, elle vient, et puis il y a un truc électrique qui les tue. Hein. Et après, il y a un truc qui les saigne. Mais ils arrivent des fois, ils sont complètement déplumés, ils vivent encore. Hein.
Ouais.
Ça, c'est autre chose qu'un combat. Hein. Ah ouais. Là, il y a un combat à chaque poulet tué. Hein. Ah ouais. Et lui, il n'a aucune chance.
Jean-Claude arrive sur le ring.
Sac à Thomas.
Raymond est juste en dehors du ring et voilà, on lâche les bêtes. Les bêtes sont lâchées. Ça part très très fort. Les plumes volent partout dans le galodrome. Le coq de Jean-Claude est par terre, apparemment pas de cassé. C'est assez dur parce que le sang sort de son bec, se répand sur la moquette. Et l'autre, avec ses ergots, il vient derrière pour l'achever. Il n'y arrive pas. Il agonise un peu. Il n'hésite pas à lui attaquer à la tête. Voilà, le combat est terminé. C'est presque un KO. Qu'est-ce qui s'est passé, Raymond ?
Il n'y a pas de cassé, comme tu as fait.
Il s'est engagé dans le tapis. Puis hop, il se casse sa patte mieux.
Il a bien l'air.
Il va finir à l'abattoir, celui-là, Raymond ?
Ouais, il est foutu, hein.
Là, il est en train de gaver.
Quand il est blessé, systématiquement, il faut le tuer derrière ou il y a des fois où on peut les sauver ?
Pas des fois tu peux, mais pas là. Pas de cassé, faut. Oh, bah, j'ai mis un couteau, je vais le saigner.
Tu vas aller le saigner ?
Ouais.
Allez, je t'accompagne. Voilà. Là, on est dans le jardin du Tahiti. Il y a un petit abattoir improvisé. C'est ouais, un plot de civilisation retourné avec un sac poubelle en dessous. Ouais. À la bonne franquette, quoi. Donc là, la place est occupée. C'est dur quand même, Jean-Claude, parce que celui que tu viens de faire battre, pendant un an, tu t'en es occupé, tu l'as nourri, et là, en trois minutes...
C'est des choses qu'on sait, hein. On sait d'avance. Hein. On sait qu'on peut nourrir ça, bichonner ça pendant plus d'un an, des fois plus, et puis...
En 10 secondes, ça peut être fini.
Ah ouais, ça peut être fini, mais ça... C'est le jeu comme ça. Hein.
Alors, la finalité, c'est de les manger ou de les mettre sur le ring ?
Bah, déjà, leur donner la chance de pouvoir gagner. Et de rester là, hein. C'est ça. Hein. Après, pas qu'ils soient plus bons, malheureusement, il faut les manger, hein, faut pas les laisser là. C'est de la bonne viande.
À 5,5 kg de viande, voilà.
Oh, on va pas le jeter.
Ah bah non. Ouais.
Un bon coq au vin.
Ouais. Non, la bière.
Ah, au vin, ou la bière, ça dépend les goûts.
Tu vois pourquoi j'ai mis une blouse là maintenant ?
Ah oui.
Tu vois qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Ben c'est là-dessus, mais c'est pas sur le pantalon.
On met le coq dans l'égouttoir.
Ouais. Vas-y, saute tête. Vas-y, vas-y. Pas sûr, il y aura du sang. Hein. Eh.
T'as perdu, Kyo ?
Ouais, pas de cassé. Il se prend dans le tapis, bon sang, et puis tout dans son élan, t'es mettant, il reste accroché, pauvre.
Oui, il se l'arrache.
Des accidents, hein.
D'un chez Coron, cœur me ménage. Chez mineurs viennent d'avoir le congé. Prennent le valise et partent voyager. À la campagne, ouvrir le parenté. Mais comme elles autres, je prends mes bagages. Et je m'en vais, mais je quitte point ma patelin. Je vaux du pays, de la manière que je m'y prends. Sans débourser un sou de train. Et je passe mes vacances tout en haut de Ch'tiri. J'ai tout dit de la chance, je t'ai raillé, jamais pris. Je monte une toile de tente, je vis tout seul et je m'arrache. Et je siffle, je ris et je cante, et je suis heureux de faire du campinche. Je me fais la popote, je vis bien mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime croire Chambéry. je ne suis qu'au fait tout un haut de ch'terri. Alors, pas d'un trintant, le mineur campeur, il ne quitte pas sa chère Terry. Même pensionné, il y va comme au passé. Seulement, aujourd'hui, il est malade. Elle faut, ça l'a usé. Il est dans son lit, et les larmes aux yeux, un ravisant à travers Escaro. Il dit tout bas. Comme ça va vite, comme le temps passe, au Terry, j'ai campé bonnes années. Acheteur, il faut l'abandonner. Je ne suis plus qu'un vieux mineur pensionné. Et je n'ai plus des jauges d'âme carcasse. Je suis vieilli, mes gampes sont ramollies. Et de le faire niette, un étant d'un mali. En ravisant, je dis c'est fini. Je montrerai plus jamais tout un haut de ch'terri. Fini désormais, le médecin, je l'ai ben compris. Par 40 ans de fond, mes poumons y ont quitté cause. Poussière de carbone, un appel chat, la silicose. Chez Béto Maintour, et de partir comme tant de vieux. De faire un long séjour, là auprès du bon Dieu. J'espère qu'il me lèchera quand je serai au paradis. Quand venir en vacances, tout un haut de main terrible. J'espère qu'il me lèchera quand je serai au paradis. Cornir en vacances, tout un haut de main terrible.
La salle de presse, c'est ici, monsieur.
D'accord. Alors, les miss rentrent et sortent par ici, cette porte-là. Donc parfois, il se peut qu'ils sortent par l'autre, parce qu'il y a deux entrées. Hein. Alors, ils vont arriver, là, comme ça. Bon, moi, je vous conseille pas sur l'année, parce qu'ils sont toujours en retard, c'est le bordel, ils arrivent à la dernière minute. Mais bon, quand ils ressortent, à 16h, quand ça suspend, ils sortent par ici. Alors les journalistes vont être là, voilà, vous les voyez sortir, vous arrivez, généralement ils sont entourés de leurs collaborateurs, vous en voyez un qui lui parle, vous dites monsieur, est-ce que je pourrais interviewer là, ou alors vous demandez directement au ministre. Soit vous demandez aux collaborateurs, soit vous demandez directement au ministre, après c'est du bonheur la chance.
Pour tout vous dire, je fais un reportage sur les combats de coqs dans le Pas-de-Calais, vous savez, c'est la dernière région française à autoriser les combats de coqs. Et je suis venu ici parce que c'est un peu le dernier galodrome en activité à Paris, quoi. Et je suis venu voir Eric Woerth parce que, comme c'est lui qui a proposé la libéralisation des jeux en ligne, des paris en ligne, c'est quand même un petit pactole de 2 à 3 milliards d'euros, enfin ils espèrent. Donc je vais aller voir Monsieur Woerth pour lui demander s'il a l'intention de libéraliser les paris sur les combats de coqs. Là, les parlementaires arrivent.
Voilà, ils commencent à arriver.
Ils portent des petites mallettes.
Là, il y a l'équipe de Monsieur Dorincourt, attachée aux relations de parlement.
D'accord. Voilà, donc on est juste en face des toilettes du Sénat. Eric Woerth est en train de se détendre avant ses combats. Il en a 3 aujourd'hui. Monsieur Woerth, excusez-moi, bonjour. Oui. Julien Brigaud, je travaille pour France Inter.
Oui.
J'ai une petite question à vous poser, ça n'a vraiment rien à voir avec Liliane Bettencourt, donc rassurez-vous. Vous qui avez proposé la loi sur la libéralisation des paris en ligne, je voulais vous demander, en fait je fais un reportage sur les combats de coqs dans le Nord-Pas-de-Calais, et je voulais savoir si vous aviez l'intention de libéraliser, légaliser les paris sur les combats de coqs, parce que
J'en sais rien, il faut demander au ministère du budget, en fait, c'est plus moi. Nous, c'était les paris sportifs. Là, je ne sais... A priori non, hein, mais...
Parce que j'ai fait un petit calcul, il y a une quarantaine de galodromes dans le Pas-de-Calais. Comme vous le savez, c'est légal.
Ouais.
C'est légal.
Ouais, ouais.
Il y a 15 séances de championnat, il y a une trentaine de matchs pendant une séance. Donc en moyenne, les coqueleux s'échangent environ 100 euros, une moyenne basse. Donc j'ai calculé, ça fait à peu près 2 millions d'euros
par an.
Mais
les gens, ils ne doivent pas jouer en ligne là-dessus de jouer.
Non, ils jouent en direct. Et la dernière fois que j'ai fait un reportage dans le galodrome, je me suis fait couper le micro parce qu'ils ont peur de se faire interdire les combats de coq.
Interdit, oui.
Alors qu'est-ce
c'est
que...
Vrai qu'il y a le combat de coq en lui-même, et puis c'est comme la tauromachie, j'imagine. Très sincèrement, je n'ai pas la réponse à ça. J'imagine, aujourd'hui, ça ne doit pas être autorisé hein, sur les jeux en ligne. Mais il faut demander... Il y a une autorité que j'ai mise dans la loi qui régule les jeux en ligne. Ça s'appelle l'ARGEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui permet au fond de faire rentrer des jeux qui étaient illégaux dans la légalité, avec plein de conditions. Donc voilà, s'il y a des jeux nouveaux qui apparaissent... ou
Ça fait longtemps que ça dure les combats.
Oui, ça fait longtemps, mais en ligne, ça n'existe pas.
Ouais. Mais ça fait à peu près 1000 fois moins que les jeux en ligne. Donc vous pourriez peut-être rassurer les coqueleux du Pas-de-Calais, non ?
Il faut vous adresser au ministère du budget.
C'est
le ministère qui a la tutelle des jeux en ligne.
D'accord.
Merci.
Bon. Merci, monsieur Woerth. Bon, ben, Eric Woerth est parti pour son combat.
Vous êtes de Radio France, c'est ça? Vous êtes accompagné par un agent de la communication?
Non. Il m'a quitté il y a...
Ah, il vous a quitté, c'est pour ça qu'on vous retrouve là.
Moi, j'étais aux toilettes.
Ah oui, mais vous avez rencontré Monsieur Wirth aux toilettes?
Oui.
Oh, ouais. Ça tombe bien, alors.
En tout cas, il était très détendu. Et où est-ce qu'il est, le galodrome?
L'hémicycle.
L'hémicycle, voilà.
C'est ici, l'hémicycle.
C'est ici.
Merci à toutes et à tous, merci à Raymond, à Jean-Claude, à Benjamin, à Marie-Thérèse Kiken, à Rémi et Marc l'artisien, aux propriétaires des galodromes d'Air sur la Lys et de Label. J'ai parlé d'Edouard Pignon, j'ai dit Ernest Pignon, évidemment c'est une erreur, il s'agissait d'Edouard Pignon. Ernest Pignon, Ernest est un autre peintre, excellent ami de surcroît. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, c'est Koye Nguyen et Franck Adhérer qui ont réalisé cette émission, modeste géniale. Assistée d'Agnès Lebot et Marina Touillès, quant à elle, attend vos messages au répondeur de la base, et j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Heureux auditeurs, vous avez droit maintenant à 55 secondes de publicité.
Lorsqu'une lycéenne est enceinte, il faudrait qu'elle poursuive ses études pour assurer son avenir et celui de son enfant. Mais pour assumer son rôle de mère, elle devra arrêter sa scolarité. Alors, on en reste là ou on trouve une solution?
Suzanne a mis en place un suivi personnalisé pour les mères encore élèves au lycée Jean Moulin de Roubaix. Si vous voulez soutenir ce type de solution, rendez-vous sur fondationdefrance.org. Fondation de France, les questions de société méritent des réponses.
France Inter, partenaire de l'exposition Baba Bling, signe intérieur de richesse à Singapour, au musée du Quai Branly. L'histoire fascinante de la culture luxueuse, raffinée et parfois bling des Peranakan, communauté chinoise de Singapour. Près de 500 œuvres exceptionnelles présentées pour la première fois en Europe. L'exposition Baba Bling à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
16h20 secondes sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la Basse et J'y suis avec le monde diplomatique. Et n'oubliez pas que jeudi à 15h dans la Basse et J'y suis, nous partons pour le Congo, le Kivu et le Katanga. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Corinne Audouin. Salut.
Arrêté ce matin par la police britannique, Julian Assange, le fondateur du site Wikileaks, s'exprime dans une tribune publiée par la presse australienne. Les révélations du site, qui publie depuis une dizaine de jours des milliers de documents confidentiels de la diplomatie américaine, n'ont pas nui à une seule personne, à ce qu'on peut savoir, écrit Julian Assange, et de conclure que Wikileaks publie sans peur les faits qui doivent être rendus publics. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international demandé par la justice suédoise suite à des plaintes pour viol et agression sexuelle, Julian Assange comparaît cet après-midi devant la Cour de justice de Westminster à Londres. Il fera appel en cas de décision de l'extrader vers la Suède. Et les soutiens à Wikileaks se font de plus en plus rares. Les sociétés de paiement Mastercard et Visa suspendent tous les virements au site. Or, Wikileaks dépend des donations faites en ligne pour financer ces opérations. La vente d'avions Rafale au Brésil, c'est loin d'être fait. Lula n'est pas du tout prêt à conclure le contrat avec la France. Le président sortant brésilien doit passer la main à la présidente élue Dilma Rousseff le 1er janvier prochain et il ne souhaite pas signer avant de s'en aller. L'avion de chasse Rafale du constructeur français Dassault, encore jamais vendu à l'étranger, est en lice avec l'américain Boeing et le suédois Saab pour emporter un marché estimé entre 4 et 7 milliards de dollars. En septembre 2009, Nicolas Sarkozy avait annoncé des négociations exclusives entre le Brésil et Dassault, mais le gouvernement brésilien avait ensuite reculé et annoncé que la compétition était encore ouverte. Le foyer infectieux de l'épidémie de choléra en Haïti serait parti du camp des casques bleus népalais de la MINUSTA, la force de l'ONU dans le pays. C'est ce qu'indique un rapport remis au ministère français des Affaires étrangères et dont l'AFP a eu connaissance. Le camp est situé à Mirbalais, au centre de l'île. L'épidémie de choléra a fait plus de 2000 morts. Dans le nord de l'Inde, une explosion devant un temple a fait au moins un mort et plusieurs blessés, dont peut-être des touristes étrangers. Le temple est situé en bordure du Gange, dans la ville sainte de Bénarès. L'origine de l'explosion est indéterminée pour l'instant. Pas un euro. François Fillon n'entend pas céder aux demandes des sénateurs. Le Premier ministre a dit qu'il n'était pas question d'aggraver d'un seul euro le déficit budgétaire. En conséquence, il demande au ministre du Budget, François Baroin, de procéder à une seconde délibération au Sénat pour rejeter plusieurs mesures adoptées par la Haute Assemblée. Les sénateurs ont notamment voté la suppression définitive de la publicité en journée sur France Télévisions à partir de 2016 et le maintien de l'abattement de 15% sur les cotisations sociales des particuliers employeurs. Dans le Val-de-Marne, le maire UMP de Nogent-sur-Marne interdit la mendicité à plusieurs endroits de la ville, et ce en raison du risque d'affluence des SDF. L'armée du salut a ouvert jusqu'à la fin de l'hiver un centre d'hébergement de 160 places pour les sans-abri au fort de Nogent, dans une commune voisine. Un arrêté qui fait bondir les élus locaux d'Europe Écologie Les Verts. Il condamne un manque de fraternité en période de grand froid. Le maire de Nogent précise qu'il prend des arrêtés similaires depuis 2007.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain donne carte blanche à San Severino.
Exactement.
San Severino fête ses 10 ans de scène avec France Inter et invite les musiciens et chanteurs qu'il a découverts au fil de ses concerts.
Merci beaucoup.
Un Pont des Artistes exceptionnel avec Tony Truant, June et Lula, Les Délinquantes, Mel et The 1-2-3-4.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
Et à 16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon. C'est le carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Ah non, Schubert n'aurait pas pu retirer son argent de la banque, comme le prône Éric Cantona, parce qu'il n'en avait pas, tout simplement. Et il aurait été certainement très embêté aussi d'avoir fait perdre 1000 euros hier au jeu des 1000 euros, justement, mené par Nicolas Stoufflet. Pourtant, il a essayé, il a dit « c'est quoi ce cycle de leader, de mélodie de Schubert ?» Et il a même dit « ça commence par Die Schöne ». Eh ben non, ça a coincé, malheureusement, les deux candidats ont perdu au Super Banco. C'était pourtant la belle meunière assez facile, j'allais dire, enfin pour nous, pour vous qui écoutez le Carrefour de l'Odéon, voilà, c'est assez connu ce cycle-là, et ces mélodies charmantes, dont la première, par exemple, Das Wandern, c'est-à-dire voyager, vante la joie du meunier. Ce doit être un bien mauvais meunier, celui qui ne songea jamais à voyager, c'est l'eau qui nous l'a enseigné, l'eau, jour et nuit, elle ne cesse de couler, et ne pense rien d'autre, oui, que de voyager.
Das Wandern ist des Müllers, muss das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auf den Rädern, ab den Rädern. Das sehen wir auf den Rädern, ab den Rädern, die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Welt so schwer sie sind, die Steine. Die Steine selbst so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit dem Mond an rein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. O Wandern, Wandern, meine Lust, o Wandern. O Wandern, Wandern, meine Lust, o Wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern und wandern und wandern und wandern.
Das Wandern, le voyage, oui, mais à pied, hein, c'est plutôt la déambulation, une promenade, enfin, on peut aller loin comme ça avec ses pieds. On le faisait autrefois, la belle meunière de Franz Schubert, interprétée par Jonas Kaufmann, ténor et Helmut Deutsch, au piano. Et je vous emmène maintenant après l'Autriche, si vous voulez bien, à travers un voyage espagnol, puisqu'un coffret est paru chez Brilliant Classics, et qui nous montre pas mal d'aspects de la musique espagnole. Par exemple, Joaquin Rodrigo connaît surtout son concerto d'Aranjuez, et cet homme qui a vécu aveugle, il a perdu la vue à l'âge de 3 ans, a réussi à vivre à travers un monde intérieur tout à fait riche et écrire beaucoup, beaucoup de musique. Par exemple, la fantaisie pour un gentilhomme. Alors ce gentilhomme, eh bien, c'était le guitariste espagnol des 17e et 18e siècles, Gaspar Sanz. C'est un hommage à Sanz. Et cette pièce a été créée en,